Bonjour à tous. Ce matin, je viens équiper pour les travaux. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, c'est mon métier aussi. Et ce matin, je suis venu avec des outils. Mon casque, mon gilet, et en fils d'immigré portugais, je me devais de prendre une towel. Mais à vrai dire, c'est pas ces outils dont j'ai besoin ce matin. Parce que la construction ou la reconstruction dans laquelle on va se lancer, même si dans ce qu'on va lire dans la Bible, elle est physique, matérielle, mais la nôtre, elle est spirituelle. Et le seul outil, en fait, dont j'ai besoin ce matin, c'est ce livre, la Bible. Ce livre qui contient et qui est toute la parole de Dieu. Ce livre qui a transformé les vies de toutes les personnes dont Eliane a parlé. Ce livre qui a transformé la vie d'Eliane, qui a transformé la mienne, qui a transformé celle de beaucoup d'entre vous. Alors, ce matin, vous permettez, je vais enlever le... Je cherche donc des reconstructeurs, des rebâtisseurs. La semaine dernière, on a eu droit aux ânes et aux gyrophares. Cette semaine, ça sera les outils pour reconstruire. On arrive dans un petit passage de la Bible, dans ce livre de Néhémie, qui nous parle de reconstruction, qui nous parle plus précisément de comment un peuple a fait pour reboucher des brèches dans une muraille. On a vu avec Jean-Jacques et Mathieu les dimanches passés que Néhémie était un homme de prière. Et pas seulement, mais un homme qui prie et qui agit. Un homme, en fait, qui fait confiance à Dieu. Et comme je le disais pour nous, je veux tout de suite faire le lien entre le passage qu'on va lire et ce qu'on va lire et nos vies d'aujourd'hui. Pour nous, boucher les brèches, reconstruire une muraille, c'est un défi spirituel. C'est un défi face à des choses qui sont sournoises, face à des luttes, face à des découragements. Et le sens de toute reconstruction, celle qu'on a dans la Bible et celles qui sont pour nos vies et pour l'Église, c'est que la gloire de Dieu se perpétue au milieu d'un peuple qu'il s'est acquis et qu'il veut saint, et que cette gloire rayonne dans le monde. Alors pourquoi c'était important de reconstruire la muraille ? Oui, c'est vrai, quelques années avant, Zorobabel était venu avec une partie du peuple pour reconstruire le temple. C'était le centre de la ville. Puis Esdras est venu et il a remis l'accent sur tout ce qui était spirituel et social. Il y a eu un renouveau. Et pourtant, le peuple n'est pas allé au bout des choses. La ville avait une muraille qui était pleine de trous. Alors, on imagine bien qu'une muraille pleine de trous, ça ne protège plus beaucoup. Mais ce n'est pas seulement ça. Une muraille pleine de trous, c'est une ville sans défense, donc. Mais c'est aussi une ville qui n'est plus protégée et donc une ville qui ne peut plus se rebeller. Oui, parce que quand un roi envahissait une région et prenait possession d'une ville, il détruisait les murailles pour que les gens ne puissent pas se rebeller. Parce que s'ils étaient dans leur ville, protégés par le muraille, ils auraient pu se rebeller contre l'envahisseur. Une ville sans muraille, une église sans muraille, une vie sans muraille, elle est sans défense. Et on n'arrive plus à lutter. Du coup, cette image de la reconstruction, on peut vraiment la prendre pour nous, Église, aujourd'hui. Parce que l'Église, la parole de Dieu nous le dit, c'est l'édifice que Christ lui-même construit. Et avec ce but, qu'on le serve, qu'on lui rende gloire sur cette terre, qu'on puisse être un témoignage de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu à ceux qui nous entourent. C'est pour ça que ce matin, dans ces chapitres, pour ceux qui suivent le plan de lecture qu'on donne tous les mois, on a lu Néhémie au mois de juillet. Je me suis dit peut-être que beaucoup ont sauté un peu sur le chapitre 3 en tout cas. Il n'y a qu'une liste de noms imprononçables en plus. Mais en fait, on va voir plein de choses dans ces deux chapitres, et aussi dans le chapitre 3. Dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, on est comparé en fait à des pierres vivantes et qu'on est appelé à s'édifier pour construire, bâtir une maison spirituelle. Et on voit que cette unité qui est formée, cette ville, on pourrait dire là, et cette église pour nous, elle ne peut pas subsister s'il n'est pas protégé, elle ne peut pas subsister s'il est divisé. Elle ne peut pas subsister s'il y a de l'amertume. Ce que nous voulons ce matin, ce que je veux ce matin, et c'est cette perspective que j'aimerais nous donner, c'est que, qu'est-ce qu'on veut en fait ensemble? On veut une église unie, une église harmonieuse. On n'est pas tous pareils. Mais on veut une église harmonieuse dans sa construction, une église sans brèche. Mais s'il y a une brèche dans ma vie, il y a une brèche dans l'église. S'il y a une brèche dans une famille, dans un couple, il y a une brèche dans l'église. L'œuvre de Dieu commence chez moi, chez toi, dans ta famille, dans ton couple, dans ton groupe de maison. Parce que tout ça compose l'église. Alors si on a fini la semaine dernière avec le chapitre 2 qui nous disait, où Néhémie disait « Levons-nous et bâtissons », j'aimerais maintenant qu'on lise quelques passages dans le chapitre 3. Alors vous aurez peut-être du mal à suivre, je vais essayer de donner les versets, mais je ne vais pas lire tout le chapitre, mais quelques petits morceaux que j'ai choisis. Non pas que ça soit intéressant, mais c'est plutôt parce que ça serait un peu long par rapport au culte. Et aussi parce qu'il y a tellement de noms compliqués à prononcer que je vais sûrement en accrocher même comme ça. Je commence au chapitre 3, donc verset 1. Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en fixèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel. À côté de lui, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtirent aussi Zakour, fils d'Imri. Je passe au verset 5. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Yoyada, fils de Paséa, et Meshulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte. Ils la charpentèrent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. Je passe au verset 8. À côté d'eux travaillait Ouziel, fils de Haraya, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travaillait Anania, d'entre les parfumeurs. Je passe au verset 12. À côté d'eux travailla avec des filles, Shalum, fils de Haloek, chef de la moitié du district de Jérusalem. Peut-être que les papas qui n'ont que des filles se reconnaissent dans la salle. Et il y en a. Verset 13. Hanoun et les habitants de Zanoa réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de la muraille jusqu'à la porte du fumier. Je passe ensuite au verset 16. Derrière lui, Néhémie, fils d'Azbouk, c'est pas le Néhémie qui écrit, c'est un autre Néhémie, chef de la moitié du district de Betsour, travailla aux réparations jusqu'à vis-à-vis des tombeaux de David, jusqu'à l'étang artificiel et jusqu'à la maison des héros. Je passe au verset 20. Derrière lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre partie depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliakib, le souverain sacrificateur. Et je passe au verset 27. Derrière eux, les Tekoïtes, de nouveau, réparèrent un autre secteur vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de l'Ophel. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. » Et j'ai lu le verset 32, qui est peut-être le dernier verset dans vos Bibles du chapitre 3. Pour d'autres, ça continue, il y a un petit découpage qui est différent selon les Bibles. Verset 32, « Les orfèvres et les commerçants travaillèrent entre la chambre haute de l'angle et la porte des brebis. » Et j'arrête ici pour l'instant la lecture. On voit dans ces quelques versets, tout d'un coup, alors que ce n'était pas le cas avant, un peuple qui se mobilise, qui se lève. On a l'impression que c'était un peu... C'était morose. Ça devait pas être simple, la vie, dans cette Jérusalem à moitié détruite, occupée par l'envahisseur. Mais tout d'un coup, les gens se lèvent et se mettent à rebâtir. Et on voit deux choses principales dans ce chapitre. C'est la mobilisation et la collaboration. Mais en pensant à ce qui s'est passé là, avec Néhémie, ça m'a fait tilt cette semaine, c'était vendredi, avec deux collègues de bureau, on est allé visiter une autre entreprise comme la nôtre, qui est dans le Bas-Rhin, et qui ont fait il n'y a pas longtemps des nouveaux bureaux. Nous, on a des bureaux catastrophiques à Guébidère. C'est alors vraiment, pour le coup, cordonnier mal chaussé, mais ce n'est pas possible. Et ça fait quelques temps, on se dit, mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et on essaye de s'inspirer de ce que d'autres ont fait. Donc on s'est dit, tiens, on va aller voir ceux-là qu'on connaît. On visite les locaux, wow, c'est super, c'est magnifique d'avoir des bureaux tout neufs, clairs, etc. On se dit, ah, mais qu'est-ce qu'on aimerait avoir ça? Et puis on discute un peu avec les gens, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Et puis juste à la fin, il y avait un monsieur qui était dans la salle de réunion, on ne savait pas qui c'était. Il dit, en fait, c'est le monsieur-là, c'est qui? Et puis le patron nous dit, en fait, c'est mon coach. Et je dis, ah, mais... Ça sert à quoi un coach pour vous en tant que patron d'entreprise de travaux publics? Ben en fait, c'est lui qui, depuis plusieurs mois, avant même qu'on commence à faire quelque chose, est venu et nous a audité, nous a analysé comment on fonctionnait et a mis le doigt sur tout ce qui n'allait pas. En fait, on s'est rendu compte, après avoir fait toute la visite, que ce qui était à l'origine de toute la transformation que l'entreprise a vécue, c'était vraiment une belle transformation, c'était juste parce qu'il y a un gars qui était venu, qui avait mis le doigt là où il fallait, et qui continue à venir. Tous les mois, il vient 2-3 jours, il regarde comment ça se passe. Et c'est ce travail-là de coaching qui a fait que les choses ont bougé. Et du coup, cette semaine, vendredi, du coup, après cette réunion, j'ai tout de suite pensé à Néhémie. Parce que Néhémie, on ne le voit pas dans ce chapitre. On n'a pas parlé de Néhémie. Mais Néhémie était là avant, on a vu les semaines passées. Il avait prié, il a fait le tour tout seul de la ville, voir qu'est-ce qu'il y avait, comment c'était. Il a mobilisé. Allez, levons-nous, bâtissons. Il a su très sûrement dire aux uns et aux autres ce qu'il fallait. Ce qui s'est passé là, c'est franchement, c'est un vrai miracle. Parce qu'on voit que Dieu a donné une nouvelle disposition de cœur. Ils étaient abattus, découragés, au milieu des ruines, des portes brûlées. Ce n'était pas simple de se mettre à reconstruire une ville comme ça. Mais d'entrée du chapitre, on voit que les sacrificateurs, première porte qu'ils réparent, ils la consacrent. Ce qu'ils font, c'est physique, c'est... Hein, le sacrificateur ou les orfèvres, ils n'étaient sûrement pas habitués à manier la truelle. Ils ont fait un travail physique, mais en même temps, c'était spirituel ce qu'ils faisaient. Ils ont consacré tout de suite le premier bout de muraille, la première porte, à l'Éternel. Ils se sont confiés dans les mains de Dieu. Et ils ont pris, on le voit, on le lit encore tout à l'heure, ils ont pris ce travail à cœur. Et si j'ai tenu à lire plein de petits morceaux de ce chapitre 3, c'est parce qu'on voit que tous se mobilisent. J'ai compté, il y a 38 personnes différentes qui sont citées. Il y a des personnes qui ne sont citées que là dans la Bible. On ne sait pas qui c'est. Il y en a un là, tout au début. Zaccour, fils d'Imri. Yes! On ne sait rien de lui, mais il est dans la Bible. Alors quand on lit, on se dit, bon, ça sert à quoi de lire ça? Qui est-ce qui connaît Rehum, un autre là, qui est un peu plus loin, fils de Bani? Mais je crois que si Dieu a voulu et a fait en sorte que leur nom soit dans la Bible, c'est parce que lui, Dieu, il pense à eux. Dieu a pensé à Zakour, à Rehum et à tant d'autres qui étaient pourtant des petites gens, comme on pourrait dire. Dieu pense à Élie, à Théodore. Même quand nous, on oublie peut-être de prier pour eux. Dieu pense à ces gens-là. Et vous savez quoi? Dieu pense à toi. Je dois avouer que dans cette salle, alors je connais tous les visages parce que je suis très physionomiste, mais je pense qu'il y a au moins 50 noms que je ne connais pas ou que je mélange. Ça, c'est ma faiblesse, ma fragilité, mon humanité. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il pense à chacun de vous. La Bible nous dit qu'il connaît ses brebis, qu'il les appelle par leur nom. Si tous ces noms qu'on a du mal des fois à lire sont dans la Bible, c'est parce que Dieu n'oublie personne. Il n'a oublié aucun de ceux qui avaient la responsabilité d'une zone de travail. Dieu n'oublie pas ceux qui travaillent pour lui. Dieu aime se souvenir de chacun. Ce qui est incroyable dans la Bible, c'est que Dieu, il aime se souvenir. Dieu n'oublie pas les gens, mais en même temps, Dieu oublie notre péché. Dieu oublie notre péché. Il se souvient de notre fidélité dans l'œuvre, de ce que la fidélité peut nous coûter dans notre quotidien, dans notre témoignage. Mais il oublie notre péché. On pourrait dire « Vive Zakour !» Mais à la place de Zakour, on pourrait dire votre nom. Si tu as envie de participer à la construction de l'Église, du peuple de Dieu, Dieu ne t'oubliera pas. Même quand le travail que vous faites n'est pas visible. Il y a quelques personnes parmi nous qui ont déjà eu des petits soucis de santé avec des organes pas visibles, reins, etc. On ne voit pas, on ne sait pas trop à quoi ça sert, peut-être même au départ, on ne se pose pas de questions, et tout d'un coup, quand il y a un problème, là, on se rend compte de à quoi ça sert, de combien ça fait mal, combien ça manque, si ça ne fonctionne plus correctement, combien ça peut faire de dégâts. Toutes les parties du corps de l'Église, Dieu les voit. Donc tous se mobilisent. Mais ce qui est aussi à noter, c'est que, en premier, les responsables, le souverain sacrificateur, montrent l'exemple. Et les gars, ce n'est clairement pas des maçons. Hein. Mais ils ont montré l'exemple. On voit d'ailleurs, c'est ce que je trouvais intéressant, c'est qu'eux, ils construisent la porte, la première porte. Ils vont apparemment pas jusqu'au bout, parce qu'on voit qu'à toutes les autres portes, les gars, ils ont mis les verrous, etc. Eux, ils avaient oublié peut-être les verrous. Mais ils ont montré l'exemple. Ils ont fait la première porte. Là, je m'adresse à nous, à moi, à ceux qui ont une responsabilité dans l'Église. Vous avez un devoir d'exemple. Vous êtes un exemple pour les autres. L'autre chose qui frappe dans ce chapitre, si vous lisez en entier, c'est qu'une trentaine de fois, vous allez lire à côté d'eux, à côté de lui, à côté d'eux, ou après lui. Plein de fois, une trentaine de fois, ces petits mots. Ça montre deux choses. C'est qu'il y avait une collaboration, un travail qui était fait, qui était organisé. Qu'il y avait des personnes très différentes, côte à côte, qui travaillaient ensemble. Tu dis une chose intéressante, Eliane, tout à l'heure, par rapport aux difficultés dans le travail missionnaire. Il y a toutes les difficultés extérieures. Mais si on posait la question à un responsable de mission, ou à toi, Eliane, qu'est-ce qui est le plus difficile dans la mission? Tu nous dirais, et tu l'as dit à demi-mot tout à l'heure, ben c'est les missionnaires. Les caractères des uns des autres, qu'il faut accorder, qu'il faut... c'est souvent ce qu'il y a le plus difficile, travailler ensemble, à côté d'eux. Je n'ai pas choisi mes frères et sœurs dans la chair. Vous n'avez pas, et je n'ai pas choisi mes frères et sœurs dans l'Église. Mais pourtant, nous devons travailler côte à côte. On veut et on doit développer une unité spirituelle, développer une vision commune. Et quand on le fait, on le voit là. Vous savez combien de jours a pris cette reconstruction de la muraille, qui faisait quand même quelques kilomètres, hein, avec plein de brèches de partout à reboucher? Vous savez combien de temps ça a pris? 52 jours. C'est rien. Et ils n'avaient pas les bétonnières. Tout à la paluche, hein, les gars. 52 jours et le travail était fait. Fini. Alors qu'en plus, on le verra tout à l'heure, il y avait des difficultés. Ça ne s'est pas fait sans adversité. Ils ont travaillé, 40 fois le mot travail, ils ont travaillé côte à côte, derrière les uns, derrière les autres. Dans le sens, il y en a un qui enchaînait après l'autre. On travaille côte à côte, on travaille aussi en se rappelant qu'il y en a d'autres qui ont travaillé avant nous, qu'on vient après d'autres. Et on voit aussi, et je l'ai lu exprès tout à l'heure, qu'il y en avait certains qui travaillaient avec du zèle. Certains qui ont fait double tâche. Ils ont fait un bout, et puis après, ils avaient fini, donc ils ont fait encore le bout devant chez eux. Ils avaient les capacités, ils l'ont fait. Meremoth, il était près de la porte des poissons, puis il a été faire le petit bout devant la maison du souverain sacrificateur. Les Tekoïdes, ce clan familial, Meshulam, j'en ai dit que c'était sûrement un célibataire, parce qu'il a dit qu'il avait sa chambre. Donc le gars, il avait du temps, des capacités, il a fait double travail. Là, je vise tous les célibataires qui sont concernés. Dieu vous donne des capacités, vous avez du temps. Allez-y, les gars. On ne l'a pas vu là au premier coup d'œil, mais certains étaient âgés. Parce qu'ils étaient déjà cités bien avant, dans Esdras. Ils ne sont pas là depuis 15 jours. C'est des années. Des dizaines d'années qu'ils sont là. Et ils sont aussi cités. Ils sont aussi au boulot. Je l'ai dit tout à l'heure, un est cité avec ses filles. Les filles aussi avaient le droit de participer. Certains étaient orfèvres, parfumeurs. Les gars, ils n'avaient jamais eu des ampoules au doigt. Ils se sont mis au travail. Certains étaient à la porte du fumier, en gros la porte qui donnait sur la décharge de la ville. Ils n'avaient pas choisi ce morceau-là. Néhémie a dû dire, ben hop, vous, là-bas. Ils ont fait le boulot. Certains venaient de l'extérieur de la ville. Ils voulaient aussi aider. Ils n'habitaient pas dans la ville, mais ils voulaient aider parce qu'ils voulaient aussi pouvoir venir au temple. Certains ont fait ce qu'ils ont pu devant leur maison. Certains ont eu l'aide de tribus complètes et ont fait 500 mètres de mur. Mais vous avez vu qu'il y avait une chose dans ce que j'ai lu, c'est qu'il y a des gens, des notables, c'est dit, des râleurs, je dirais, qui ont refusé de travailler sous les ordres de monsieur. Comment est-ce qu'on réagirait si quelqu'un, tout d'un coup, dans une équipe, refusait de travailler, alors que tout le monde prend sa part, y compris la part la plus pourrie devant la décharge? Comment est-ce qu'on réagirait? Peut-être qu'on aurait envie d'arrêter, de dire, bon, quand même, ça va pas là, allez, puis tout le monde s'y met un peu pour les bousculer. C'est pas ce que Néhémie a fait. Ils n'ont pas voulu faire, mais les autres ont continué. Je crois qu'il y a une vérité importante pour nous, là, ce matin. Parce que finalement, on pourrait se poser une question, c'est, est-ce que Dieu bénit seulement quand il y a pas de problème, ou est-ce que Dieu bénit aussi quand il y a des problèmes? Je pense que Dieu bénit même quand il y a, et même au travers des difficultés qu'on rencontre. On pourrait se dire, en lisant la Bible, mais pourquoi il y a tellement de pages qui nous parlent de trucs terribles? Pourquoi tellement de pages pour nous parler de l'adultère de David, de nous parler des doutes d'Abraham, de nous parler du reniement de Pierre? Pourquoi toutes ces pages pour nous raconter ça? C'est parce que Dieu travaille avec des gens comme nous qui sont imparfaits, qui sont pécheurs. Ça ne sert à rien d'attendre un certain niveau de maturité pour se lancer dans le travail. Dieu fait avec nous, et il le fait aussi pour nous faire progresser. Même quand il y a des doutes, même quand il y a eu un péché. Par contre, si vous êtes rebelle, vous allez vous mettre vous-même à l'écart du reste du peuple et des bénédictions de Dieu. Les rebelles se sont privés de la bénédiction. Mais on voit qu'il n'y a aucune remarque sur le reste du peuple. Ils ont accepté, supporté sans amertume. Ils ont accepté, et il faut accepter quand tout d'un coup, parce qu'on se met au travail, on se rend compte de tel ou tel caractère, de telle ou telle personne qui refuse. Quand on va se mettre au travail, il y a plein de choses, y compris pour soi, qui vont être mises à nu. Et pour finir ce chapitre, j'aimerais juste rappeler une chose. C'est qu'on doit vraiment, à chaque instant, se souvenir qu'on n'est pas les premiers. Pas les premiers à avoir fait ce travail, à avoir travaillé pour le royaume de Dieu. Il y a quelques années où j'étais dans le ministère pastoral, un cher frère m'avait dit « Attention Tony, il faut que tu évites le syndrome Zorro. » On est tout jeune, tout frais, on a plein d'idées, on veut faire plein de choses et on veut tout révolutionner et on fait comme si rien ne s'était jamais passé avant. Et je me suis trompé. On est forcément héritier de quelqu'un. Et on a quelque chose à transmettre à quelqu'un d'autre. On ne fait que, comme le dit la parole de Dieu, bâtir sur un fondement qui a déjà été posé par d'autres. Et donc, comme le dit la parole de Dieu, prenons garde à la manière dont nous bâtissons. Mais avec ce chapitre 3, et je finirai là-dessus, il y a une question pour vous ce matin. Finalement, c'est, est-ce que tu veux vivre ta propre vie sans t'occuper des autres, dans l'église, dans ta famille? Ou est-ce que tu acceptes de prendre la place qui te sera donnée dans cette grande histoire que Dieu écrit, où on n'a pas le premier rôle, mais où Dieu veut qu'on ait un rôle? Dieu veut mettre dans notre cœur une nouvelle disposition, qu'on ait tout d'un coup, comme au début de ce chapitre, tous envie d'aller de l'avant, envie de construire ensemble, envie d'être des témoins fidèles de ce que Dieu fait pour les hommes. Et ça demande aussi un pas de foi, de confiance. C'est ce que ce peuple a fait. Il s'est levé, s'est mis au travail, mais on va aborder le chapitre 4 qui nous montre que ce peuple, même avec les difficultés, a tenu bon, tient ferme, un peuple qui tient ferme. Je vais lire quelques versets aussi dans le chapitre 4. Alors chapitre 4 ou chapitre 3, verset 33, pour ceux qui ont un autre découpage. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très mécontent. Il se moqua des Juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font ces Juifs, impuissants ? Les laissera-t-on faire ? Sacrifieront-ils ? Vont-ils achever ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et incendiées ?» Tobia, l'ammonite, était à côté de lui et dit, « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. » Et là, une prière. « Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. Fais retomber leur déshonneur sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous avons rebâti la muraille et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. » Le peuple prit à cœur ce travail. Mais, je ne vais pas lire les versets qui suivent, une deuxième attaque des mêmes personnes qui se sont liguées avec d'autres. Il y a du découragement qui arrive. Judas qui dit, mais les forces nous manquent. Les décombres sont considérables. Et je lis au verset 8, Néhémie qui parle, je regardais, je me levais et je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur entreprise et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son ouvrage. Je lis un peu plus loin, verset 13. Je dis aux grands, toujours Néhémie qui parle, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Rassemblez-vous auprès de nous, à l'endroit d'où vous entendrez le son du cor. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son jeune serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes jeunes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Tout le monde s'était mobilisé, mais ça ne pouvait pas durer. Il y a forcément des difficultés qui arrivent. Et finalement, c'est un principe. Quand quelqu'un décide de suivre Jésus-Christ et de le servir vraiment, forcément arrivent des difficultés. Là, on en voit deux, voire trois. La première, c'est l'opposition, avec du mépris, voire même de la dérision. On le voit avec Sanballat et les autres qui viennent, qui se moquent. Et on voit le pouvoir des mots. Il les tourne en ridicule. Néhémie s'est senti blessé. Le peuple s'est senti blessé. Aujourd'hui, dans notre société qui, pour beaucoup, n'a plus les valeurs chrétiennes, même si ça fait longtemps que les valeurs avaient été déconnectées de Christ, mais il n'y a même plus, dans beaucoup de choses, de valeurs chrétiennes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, des fois, on vit comme sous un vernis, et que ce vernis, tout d'un coup, devient agressif, corrosif. Et il y a le pouvoir des mots, qu'on change, auquel on donne un autre sens. Face à cela, il y a un remède que Néhémie donne, c'est qu'il faut se rappeler que notre valeur est en Dieu. Pas dans ce que je pense de moi-même, pas dans ce que les autres disent de moi-même, mais que notre valeur est en Dieu. La moitié du travail était fait. La moitié de la hauteur, la moitié de la largeur. Il restait encore une moitié, mais il y avait déjà une moitié de fait. Et nous devons, face au mépris, face à la dérision, aux moqueries, nous rappeler que notre valeur est en Dieu. Nous devons aussi, comme on le voit là, garder le silence. Vous avez remarqué que Néhémie ne répond pas. Il ne répond pas, mais il prie, il s'adresse à Dieu. Alors il fait une prière qu'on trouve un peu spéciale, hein. On appelle ça une prière d'imprécation. Mais cette prière nous dit plusieurs choses. C'est qu'on peut tout dire à Dieu sur nos états d'âme. On peut, et c'est ce que fait Néhémie, il demande à Dieu que justice soit faite. Mais il ne fait pas lui-même justice. Ça, c'est quelque chose de difficile, hein, aussi pour nous aujourd'hui. Hein, de dire, je veux faire confiance à Dieu, parce que c'est lui qui va s'occuper de mes ennemis, et je ne veux pas moi-même me faire confiance à moi et gérer moi le problème. Parce que souvent, si on gère nous le problème, ça dépend des caractères, mais ça peut vite finir à l'hôpital ou ailleurs. Est-ce que tu es prêt à remettre ton sort à Dieu? Est-ce que tu es prêt à accepter que Dieu est souverain, que Dieu juge, que Dieu est ton défenseur, que Dieu voit et entend? Quand on gère, nous, le problème, on est en train de dire, le message implicite qu'on laisse, c'est ça. Dieu ne voit pas. Dieu n'entend pas. Dieu n'est pas juste. Dieu ne s'occupe pas de toi, ni de moi. C'est tout ce qu'on est en train de dire quand on gère nous-mêmes les difficultés et qu'on n'est pas prêt de laisser Dieu les gérer pour nous. Le but de l'ennemi, c'est que le travail cesse. Alors il ne faut pas s'arrêter, il faut remettre à Dieu ce qui est difficile dans nos vies. Et si c'est trop dur de le faire tout seul, bah partagez-le à quelqu'un. À quelqu'un en qui vous avez confiance. Prenez le temps avec une sœur ou avec un frère pour prier Dieu, pour lui remettre tout ce qui ne va pas. Encourageons-nous aussi en partageant toutes les fois où on a vu Dieu intervenir et changer une situation en notre faveur. On a vu Dieu nous aider à remporter une victoire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette confiance dite et réelle dans la prière de Néhémie, elle a une conséquence directe. C'est que le peuple prit à cœur le travail. Ça a redoublé la motivation des gens, de tout le peuple. Mais on voit aussi que dans ce passage, il y a l'opposition par cette conspiration qui naît. Premier coup, ça ne marche pas. Alors, ils se mettent à plusieurs, ils se liguent pour essayer de faire arrêter les travaux. Et ce qu'on voit, c'est que le peuple a été averti par d'autres juifs de l'extérieur une dizaine de fois. On leur a dit de tous les bouts, attention, attention, ils vont vous attaquer. Et du coup, Néhémie a fait ce qu'il fallait pour réorganiser les travaux. Il ne s'est rien passé de très extraordinaire. Il n'y a pas eu de miracle. C'est tout simplement par une circonstance toute ordinaire, avec des gens qui réfléchissent, qui font leur travail, qui prennent en compte ce qu'on leur dit, qui réorganisent, qui mettent des personnes au travail différemment, etc. C'est juste ce travail-là qui a fait que. Mais la conclusion, c'est pas écrit grâce au travail de Néhémie, machin, non, non, non. C'est écrit, Dieu anéantit leur entreprise et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun de son côté, chacun à son ouvrage. Tout le mérite est à Dieu. Dieu, il est le même, il agit de façon miraculeuse et il agit aussi quand on fait tout simplement, consciencieusement, fidèlement, notre travail au quotidien. Parce que Dieu utilise toutes ces circonstances pour pour faire que les choses soient en bénédiction pour nos vies. Et Néhémie dit une chose là, que j'aimerais vous garder en tête ce matin. Ne craignez pas vos ennemis. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, pour vos familles, pour vos proches. Souvenez-vous du Dieu grand et redoutable. C'est ça qui doit être notre force, notre motivation. Et en même temps, quand on travaille, on le fait pour ceux qui nous entourent, ceux qu'on aime, ceux qui nous sont proches. Combattons avec cette idée. Et Dieu combattra pour nous comme il a combattu pour les gens de Jérusalem et il anéantit les projets de l'ennemi. Mais il y a une troisième chose qui s'est passée dans cette reconstruction. C'est qu'il a fallu, ce sera mon dernier point, résister au découragement. Le découragement avait commencé avec Judas, qui voyait la tâche immense. Mais arrivé vers la fin des travaux, on pourrait se dire, oh, c'est bientôt fini. Mais Néhémie, il voit aussi qu'il y a peut-être un peu d'épuisement, il y a peut-être un peu de... Et puis il se rend compte que tout le monde est quand même un peu loin les uns des autres. On est tous à fond dedans, mais tous de son côté. Et il dit, attention, on a aussi besoin de se rassembler. Se rassembler pour veiller les uns sur les autres, pour se protéger. On voit à la fin du chapitre qu'il n'avait que des armes et de l'eau. Je ne sais pas s'il faut en tirer une image pour la vie spirituelle, les armes que nous donne Paul dans Éphésiens et l'eau de la parole de Dieu. Mais c'est vrai que nous devons nous revêtir des armes de Dieu, la vérité, la justice, le zèle, être à fond pour le Seigneur, la foi, la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça que nous dit la parole de Dieu qu'on résistera au mauvais jour. Et on voit que pour lutter contre le découragement qui pourrait gagner le peuple à la fin des travaux avec l'épuisement, Néhémie, il instaure un système d'alerte. Quand il y a danger, les trompettes sonnent et on se rassemble. Je me suis posé la question, alors c'est quoi, nous, aujourd'hui, notre système d'alerte? Quand est-ce que les trompettes sonnent et qu'on se rassemble? Je pense pour une grande partie, c'est nos groupes de prière. La plupart des groupes de prière, des groupes de maison, ont un petit groupe WhatsApp sur lequel on partage les sujets de prière quand il y a quelque chose qui est difficile. Et on peut tous prier en même temps. Dans nos groupes de prière, on partage nos luttes, nos difficultés, nos questionnements. On a eu notre première rencontre mercredi avec le groupe de Montbéliard. Et c'était super. Et je sais qu'il est là, Momo. Mais Momo, tout d'un coup, il a eu plein de questions. Alors c'est sorti, bam, 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 bam. Puis on a essayé de répondre. À un moment donné, on s'est dit, ben, peut-être qu'on reprendra aussi les questions une autre fois et qu'on prendra plus de temps encore pour y répondre. Mais il avait ça sur le cœur, il nous l'a partagé et on a pris quelques minutes pour essayer d'y répondre. Et puis certains qui étaient à côté ont continué les discussions. Mais on a besoin de ça. On a besoin de se rassembler pour partager ensemble, pour prier ensemble. Peut-être que vous n'avez pas de groupe de prière ou de maison et que vous trouvez une personne avec qui vous pouvez et vous aimez partager, puis vous dites simplement, ben, le culte c'est à 10h, allez, on se retrouve à 9h30, et puis on partage ensemble, on discute, ou on se retrouve à la fin, ou on se retrouve dans la semaine. Et quand on est dans la détresse, on sonne de la trompette. On sonne le rassemblement, on appelle autant de fois que nécessaire. C'est un médicament, il n'y a pas de contre-indication dans la posologie. Rassemblez-vous, rassemblons-nous, et Dieu combattra pour nous. La foi, elle vient quand nos yeux regardent Dieu dans sa grandeur. C'est ce qu'a fait Moïse quand il était devant Pharaon. Il ne regardait pas Pharaon, il regardait à Dieu. C'est ce que David a fait quand il était face à Goliath, il ne regardait pas Goliath, il pensait à Dieu. C'est ce que Josué et Caleb ont fait quand ils ont vu des géants dans le pays de Canaan. Ils pensaient à Dieu. Et à sa grandeur. Dieu a promis de bâtir son Église. C'est lui qui va le faire. On doit se souvenir de Dieu, se souvenir de ce que Christ a fait pour nous. Christ a été, et on va se le rappeler encore tout à l'heure avec la scène, il a été moqué, violenté, mais il s'en est remis à son Père céleste. Il a reçu sur lui ce que nous on méritait, mais il a pu dire « Père, pardonne-leur ». Jésus avait soif de justice. Mais toute la justice de Dieu s'est déversée sur Jésus-Christ. C'est pour ça d'ailleurs, je crois, qu'on ne trouve pas dans le Nouveau Testament et on n'a pas besoin d'aujourd'hui de prières d'imprécation. Parce que tout s'est réalisé en Jésus. On n'est plus invité à maudire nos ennemis, mais on est invité à les bénir. Parce que Jésus a tout supporté. Il a été mis à mort, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il offre une vie de pardon. Une vie nouvelle, une vie éternelle à tous ceux qui veulent croire. Et parce que Christ a été méprisé, rejeté, on le sera aussi si on veut travailler pour le royaume de Dieu. Mais on peut faire comme Jésus, se confier en Dieu, prier pour nos ennemis et continuer la course, la bataille. Jésus, par sa mort, par l'opposition qu'il a rencontrée, par sa mort et sa résurrection, il a accompli le plan parfait pour que nous, on soit sauvés. Et Jésus est ressuscité. Il vit éternellement. Et il en sera aussi pareil pour nous. On peut nous moquer, nous tuer, même nous tuer, mais le plan de Dieu continuera à se dérouler. Et ça sera un triomphe pour Dieu. Finalement, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, elle fonctionne bien quand il y a de l'opposition. On a juste l'évangile. Et c'est tout ce qu'il nous faut pour vaincre l'ennemi. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais j'aimerais vraiment qu'on retienne ce matin que comme ce peuple, on veut se lever et on veut tenir ferme. Tenir ferme dans tout ce qu'on veut faire pour annoncer et parler de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu à ceux qui ne connaissent pas ce Dieu de la Bible. On peut avoir des luttes intérieures, des luttes extérieures, mais Dieu va accomplir son œuvre, même dans les situations difficiles. J'aimerais juste prier pour conclure. Oui, Père Céleste, merci parce que tu m'as montré aussi combien je devais redoubler d'efforts. Je ne devais pas me décourager quand la tâche me paraît trop grande. Seigneur, on veut garder les yeux fixés sur toi parce que tu es ce Dieu grand et redoutable en qui on a notre valeur. Et même si notre tâche n'est pas immense, peut-être limitée à cause de notre situation. On pourrait peut-être ne faire qu'un petit bout de devant chez nous. Mais Seigneur, toi, tu te souviens de chacun de nos noms. Tu es celui qui prend soin de tous ceux qui veulent être fidèles. Seigneur, merci pour ces promesses, merci pour ta parole qui nous réconforte et qui nous guide sur le chemin de notre vie, sur la manière dont nous voulons aussi, non pas d'une manière arrogante, mais d'une manière humble, apporter le message de salut que toi tu offres. Combien autour de nous, dans nos familles, dans nos voisins, nos amis, au travail, combien cachent leur désespoir ? Cachent leur vide. Et combien ils ont besoin de toi, Seigneur, et guide-nous pour être les bonnes personnes avec les bonnes paroles pour ceux qui te cherchent et que tu veux trouver. Amen.